Bonjour, le secrétaire général va faire le point sur le sommet et après il sera prêt à répondre à vos questions. Monsieur le secrétaire général. Bonjour. Nous avons eu un très bon sommet. Au cours des deux derniers jours, nous avons pris des décisions majeures visant à renforcer la défense et la dissuasion de l'OTAN. Nous avons renforcé notre lutte contre le terrorisme et nous veillons à un partage équitable du fardeau entre tous les alliés. Comme je vous l'ai déjà dit en début de semaine, je m'attendais à avoir des discussions à bâton rompu sur le partage du fardeau. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. C'est ce que nous faisons entre amis et entre alliés. Tous les alliés ont entendu le message du président Trump, c'est sans équivoque. Nous comprenons que ce président américain prend très au sérieux les dépenses en matière de défense. Et cela a un impact évident. Après des années de déclin, lorsque des alliés faisaient des coupes à hauteur de milliards, maintenant on ajoute des milliards. Avant, il y avait une tendance à la baisse. Maintenant, la tendance est à la hausse. En fait, depuis qu'il est devenu président, les alliés européens et le Canada ont ajouté 41 milliards de dollars à leurs dépenses en matière de défense. Et tous les alliés se sont engagés à faire progresser de façon notable ce chiffre. Donc, nous répondons à l'appel. Et ainsi, les États-Unis pourront dépenser moins. Il y a un nouveau sentiment d'urgence dû au leadership fort du président Trump sur les dépenses liées à la défense. Aujourd'hui, les alliés sont arrivés d'accord pour redoubler d'efforts. Et donc, l'OTAN en sera plus forte. Tous les alliés se sont engagés en faveur de l'OTAN. C'est apparu très clairement dans la bouche des 29 chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui. L'OTAN, c'est une bonne chose pour l'Europe et c'est également une bonne chose pour l'Amérique du Nord. Après deux guerres mondiales et une guerre froide, nous avons pu voir que nous sommes plus forts unis que séparés. La seule fois que l'OTAN a invoqué l'article 5, c'était après les attaques du 11 septembre sur les États-Unis. Le résultat a été que des centaines de milliers de soldats américains, européens et canadiens étaient aux côtés des Américains en Afghanistan. Et des milliers ont payé cela au prix de leur vie. Qui plus est, la présence américaine en Europe est essentielle pour la projection de la puissance américaine vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, pour empêcher tout trouble qui pourrait parvenir dans nos contrées. Et les forces européennes, l'infrastructure européenne et les renseignements européens ont également permis de protéger les États-Unis. Et cela alors que nous sommes face à une Russie qui s'affirme. Pour être bref, l'OTAN a un effet multiplicateur en termes de force pour les États-Unis. Et malgré nos différends, nous faisons plus ensemble pour notre sécurité. À l'occasion de ce sommet, nous avons pris comme décision d'augmenter le niveau de préparation de nos forces, leur réactivité pour pouvoir les déplacer en Europe et de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons pris un accord pour moderniser notre structure de commandement et de créer un nouveau centre d'opération cyber ainsi que des équipes de soutien pour la lutte contre les pratiques hybrides. Nous avons décidé également de donner un coup de pouce à la contribution de l'OTAN dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec une nouvelle mission de formation en Irak, avec un soutien plus prononcé pour la Tunisie et la Jordanie et un pôle pleinement opérationnel pour le Sud ainsi qu'un paquet de mesures supplémentaires pour le Sud. Nous avons clairement indiqué que la porte de l'OTAN reste ouverte en invitant le gouvernement à Skopje de commencer les pourparlers en vue de son adhésion. Aujourd'hui, nous avons également pris comme décision de maintenir notre présence en Afghanistan tant que les conditions seront en place. Et nous avons également prolongé notre aide en 2024 pour les forces. Ainsi, ils pourront développer leurs forces spéciales et leur armée de l'air en Afghanistan dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme international. Nous avons également appuyé la proposition de paix très courageuse du président Ghani et son engagement continu pour créer les conditions pour une paix durable et une réconciliation dans ce pays. Nous avons également rencontré les présidents de la Géorgie et de l'Ukraine. Ensemble, nous avons partagé nos préoccupations liées notamment aux menaces russes qui pèsent sur leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Aujourd'hui, nous sommes d'accord pour continuer à travailler ensemble pour préparer la Géorgie en vue de son adhésion à l'OTAN. Nous sommes d'accord pour apporter un soutien dans des domaines tels que la gestion de crise, la formation et les exercices. Nous reconnaissons les avancées substantielles obtenues sur les réformes en Géorgie et nous apprécions les contributions notables de la Géorgie pour la mission en Afghanistan. Nous maintenons nos décisions liées au souhait de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance. Nous attendons de voir d'autres avancées en termes de réformes en Ukraine. Nous allons apporter un soutien politique et pratique pour ce pays qui fait face à un conflit actif. Hier soir, nous avons abordé les grands défis sécuritaires qui existent dans le monde avec les présidents du Conseil de l'Union et de la Commission et avec nos collègues de la Finlande et de la Suède. Nous avons abordé les défis venant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous avons parlé de la situation dans la péninsule coréenne et d'une Russie qui s'affirme. L'OTAN reste engagée en faveur de son approche duale vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire la défense et le dialogue. Nous continuons à vouloir une relation constructive avec la Russie lorsque c'est possible. L'OTAN représente le lien essentiel entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Notre alliance est le garant de notre sécurité, de nos libertés, des valeurs que nous partageons. Et cela représente également notre engagement visant à nous défendre les uns les autres. Nos décisions au sommet de Bruxelles nous ont montré qu'au fur et à mesure que le monde change, l'Europe et l'Amérique du Nord restent côte à côte et agissent ensemble au sein de l'OTAN. Je suis prêt à répondre à vos questions. Reuters, première ligne. Monsieur le secrétaire général, le président Trump a demandé aux alliés de l'OTAN d'arriver à 2%, ou alors les États-Unis feront bande à part. Que répondez-vous à ça?
Nous avons une discussion franche et ouverte au sujet du partage du fardeau. C'était le cas hier et encore aujourd'hui. Et je pense que cette discussion a permis de renforcer l'OTAN. En effet, cela a permis de créer ce sentiment d'urgence quant à l'importance des investissements en matière de défense. Et il y a des nouveaux investissements qui sont arrivés. En effet, depuis la venue du président Trump l'an passé à Bruxelles, c'était au printemps dernier, printemps 2017, depuis cette époque, donc, les alliés ont rajouté 41 milliards à leurs dépenses de défense. Ainsi, nous sommes engagés. Et je pense que le fait qu'il y ait eu une telle discussion a permis de montrer très clairement que nous allions redoubler d'efforts. Cela montre en outre que le message très clair envoyé par le président Trump a des répercussions.
Washington Post, s'il vous plaît. Le monsieur qui porte des lunettes. Bonjour, Michael Bergman du Washington Post. Alors, on vient d'avoir la question de Reuters sur les discours de Trump. Certains hauts représentants étaient préoccupés ce matin que les États-Unis pourraient se retirer de la déclaration du sommet, comme on a pu le voir au G7 le mois dernier. Quel est l'effet sur la dissuasion vis-à-vis de la Russie et les autres compétiteurs quand on voit qu'il y a des scissions au sein de l'OTAN? Et lors de sa conférence de presse ce matin, le président Trump indiquait que vous alliez annoncer ou que l'OTAN allait annoncer quelques nouveaux engagements de nature spécifique de la part des alliés en termes de dépenses. Pouvez-vous nous dire exactement quels sont les engagements qui ont été pris? Merci.
Alors, il existe des différents points de vue, des positions différentes entre alliés. Mais cela ne constitue pas un problème en tant que tel pour peu qu'on arrive à se mettre d'accord et arriver à des décisions. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Alors effectivement, quand il est arrivé hier, on a constaté qu'il y avait des divergences. Et je l'ai dit, il y a eu une discussion franche et ouverte. Mais on a également pris des décisions, on est arrivé à des conclusions. Et je considère vraiment que l'OTAN est désormais plus unie qu'avant le sommet. En effet, il y a eu cette discussion franche et ouverte. Tout cela s'est fait en dehors du cadre de scénarios écrits à l'avance. Et je crois que grâce à cela, on a à présent une vision commune, une compréhension commune des défis qui existent, l'importance qu'il y a à dépenser plus et de le faire rapidement. Et les alliés se sont engagés par rapport à la dépense, par rapport aux investissements sur notre sécurité partagée. Et je crois que ce à quoi le président faisait allusion, c'était le fait de vous donner des chiffres spécifiques sur les dépenses supplémentaires depuis son arrivée aux affaires. Et si vous prenez la déclaration de presse formulée hier, je crois que vous verrez dans le tableau numéro 2 les différents chiffres pour les différents pays. Et sur cette base-là, vous pourrez faire une synthèse et voir que le total est donc bien de 41 milliards en dollars constants. En fait, en chiffre nominatif, c'est encore plus. Donc 41 milliards de dollars supplémentaires, c'est une somme conséquente. Et pourtant, les alliés ont considéré qu'il fallait aller encore plus loin.
NPR, Deutsche Welle. Non, la dame derrière, merci. Terry Schultz, merci beaucoup. La solidarité de l'OTAN ne porte pas que sur une question de financement, il y a la question de confiance. Pouvez-vous vraiment nous dire, après cette réunion, que les alliés européens ont aussi autant confiance que les États-Unis pour dire que les États-Unis les aideraient si c'était nécessaire? Est-ce que le niveau de confiance est le même qu'auparavant? Et également le caractère urgent. Pourquoi les États-Unis devraient faire ressentir aux Européens qu'un financement supplémentaire était nécessaire? Alors, ils doivent le faire pour leurs propres armées. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que les États-Unis les poussent dans ce sens?
En fait, d'une certaine manière, il y a plusieurs raisons, notamment pour les pays qui dépensent moins de 2%. Plusieurs raisons pour investir plus. Premièrement, il y a le fait que nous vivons dans un monde qui est plus imprévisible et plus dangereux. Voilà qui veut dire qu'il faut investir plus avant en matière de sécurité. L'autre raison, c'est que tout fonds supplémentaire, toute dépense supplémentaire par rapport à ceux qui dépensent moins de 2%, eh bien, ça va permettre d'améliorer le partage de la charge. Pardon. Donc il y a ces deux raisons. Cela permet de renforcer notre capacité à réagir s'agissant d'un environnement sécuritaire plus exigeant et ça permet d'avoir un meilleur partage du fardeau. Et pour ma part, je pense vraiment que grâce à cette nouvelle urgence que l'on prête à la question à la suite de ces discussions, le fait qu'il y ait eu des décisions sur la réactivité, sur une nouvelle structure de commandement et sur bon nombre d'autres dossiers qui vont me permettre de renforcer notre défense collective, notre lutte contre le terrorisme, les aspects cyber et d'autres qui sont liés donc au renforcement de notre défense collective, je le disais. Je crois que ces décisions, plus cette unité que l'on a pu démontrer à la suite de cette discussion franche et ouverte, eh bien tout cela me semble très positif pour l'OTAN, car cela veut dire que nous sommes plus forts et plus unis. L'Associated Press, troisième rang. Monsieur le secrétaire général, vous avez dit que le sommet était très positif. Je puis vous dire que ça a été plutôt chaotique de notre côté par rapport à ce que l'on a pu entendre. Alors, j'aurais voulu vous poser quelques questions au sujet de la Russie. On a interrogé le président américain sur cette question. Ça doit être difficile de traiter avec quelqu'un qui est aussi imprévisible, mais on lui a demandé s'il pourrait envisager de supprimer des exercices. Si jamais cette question était abordée avec le président Poutine, on pense par exemple à Trident Juncture, c'est quelque chose qui a pu se faire de par passé. Il a dit, on verra bien. Alors, est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Et puis, toujours au sujet de la Russie, il y a ce qui se passe en Grèce avec l'expulsion de diplomates russes et une éventuelle ingérence dans le référendum en Macédoine. Est-ce que ce sont là des points qui ont été évoqués? Est-ce que ce sont là des éléments qui vous inquiètent?
Tout d'abord, nous avons eu un bon sommet. Pas parce que tout était rédigé d'avance, mais parce que ce sommet a donné lieu à un débat ouvert. Nous avons eu des échanges francs et très respectueux avec les différents points de vue. Si par bon sommet, vous nous dites que tout est préparé et écrit d'avance, à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Mais ça a été un très bon sommet, étant donné que nous sommes arrivés à certaines conclusions, nous avons pris des décisions, et l'OTAN sera à la hauteur. Et à long terme, ce qui compte le plus pour moi, c'est le fond. Et pour ce qui est du fond, il y a eu des résultats avec ce sommet. Mais Nous avons également bien compris que nous sommes dépendants les uns des autres, qu'ensemble nous sommes plus forts et qu'il faut un partage du fardeau plus équitable. Et il convient de connaître le caractère pressant de tout ça. En raison de tout ça, l'OTAN est plus forte. Et le président Trump a indiqué dans la réunion, mais également dans sa conférence de presse, qu'il soutenait fermement l'OTAN, qu'il était engagé en faveur de l'OTAN. Les États-Unis ont une présence en Europe. Les alliés européens vont être à la hauteur. On va pouvoir mieux déplacer nos forces de l'autre côté de l'Atlantique avec le nouveau commandement et l'initiative de réactivité, mais également avec le nouveau commandement à Ulm en Allemagne. Alors maintenant parlons de l'ERIM. Toute ingérence d'un autre pays est inacceptable. Nous nous félicitons de l'accord obtenu entre Skopje et Athènes. Et donc c'est une occasion unique à saisir pour que l'ERIM puisse rejoindre l'OTAN avec son nouveau nom, la République de la Macédoine du Nord.
Le Financial Times. Bonjour Michael Peel. S'agissant des éléments de fond, est-ce que vous pouvez donc nous confirmer que rien n'a été agréé ce matin, d'un point de vue formel ou informel, qui corresponde à des engagements de la part des États membres d'aller au-delà de l'objectif du Pays de Galles de 2%? Voilà ma première question. D'autre part, qu'est-ce qui a donné lieu à la convocation de cette réunion extraordinaire ce matin? Qu'est-ce qui a été dit et comment les gens ont-ils réagi?
Je pense que nous avons tous eu l'impression qu'on n'avait pas pu finir le débat sur le partage du fardeau. Le partage du fardeau était l'un des principaux sujets lors de la première session de travail qui a eu lieu hier. On en a parlé également au cours du dîner. Puis nous avons une très bonne réunion avec l'Ukraine et la Géorgie. Mais nous avions estimé qu'il nous fallait un peu plus de temps pour finir la discussion sur le partage du fardeau. Donc nous avons ajouté une session. Il y a eu donc une réunion supplémentaire. J'ai eu l'impression, nous avons tous eu l'impression qu'il fallait un peu plus de temps pour avoir une discussion de qualité sur le partage du fardeau. Nous avons eu une bonne discussion, des conclusions en ont été tirées, ce qui confirme le soutien apporté à l'OTAN. On peut dire qu'il est important d'investir plus. Tous les alliés sont d'accord pour dire que nous devons être à la hauteur de nos engagements. Il y a un caractère pressant qui est nouveau et tous les alliés sont d'accord pour redoubler d'efforts. Et comme je vous l'indiquais, des nouveaux fonds arrivent. On parle de plus de 41 milliards depuis le président Trump était là la dernière fois. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons pris de nombreuses décisions, vous pouvez lire cela dans la déclaration. Nous voulons veiller à être à la hauteur de nos engagements et nous voulons continuer à ajouter des milliards à nos budgets de défense.
Politico, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, la déclaration a été approuvée hier. Le partage de la charge de travail ne figurait pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il a fallu traiter de nouveau? Qu'est-ce qui a été soulevé de nouveau par le président Trump? Et est-ce que la déclaration a évolué? On a cru comprendre qu'il avait des questions ou des requêtes s'agissant de rapports écrits non soumis par certains alliés. Pouvez-nous préciser ce qu'il y en est? Parce que, a priori, le partage du fardeau ne faisait pas partie de l'ordre du jour. Or, vous avez parlé des décisions prises, il semblait qu'elles avaient été prises hier.
Avec une initiative lancée par le président Trump l'année dernière, nous étions d'accord pour développer des plans nationaux. Nous avions clairement indiqué cette année qu'il nous fallait des plans crédibles du point de vue national. Et je m'attends à ce que tous les alliés adoptent leurs plans nationaux. Ces plans représentent un outil puissant pour donner lieu à des résultats. Nous voulons renforcer de façon notable les dépenses en matière de défense. Je pense que ce qui est important, c'est non seulement d'avoir pris une décision, mais nous devons comprendre de la même façon la manière de mettre en œuvre ces décisions. Et voilà l'importance de la discussion que nous avons eue hier et aujourd'hui.
Okay, we'll take one last question. Une dernière question. Bonjour, je représente Saloma Tando. J'ai une question au sujet des fonds engagés pour l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a une augmentation à ce niveau-là? Et si oui, quel va être le montant total? Ensuite, on a dit que ceci financerait également l'augmentation des forces spéciales en Afghanistan. On a parlé d'investissement par rapport à l'armée de l'air. Alors, quelles vont être les répercussions pour les autres domaines de dépenses en matière de défense en Afghanistan?
Oui. Nous apportons un soutien aux forces de sécurité de l'Afghanistan, à l'armée et aux forces de sécurité de bien des façons. Nous dispensons une formation, mais nous apportons également des fonds. Et aujourd'hui, nous avons pris comme décision de poursuivre la formation et le financement. Notre engagement actuel en termes de financement va jusqu'en 2020 et nous avons décidé d'avoir des financements allant jusqu'en 2024. Avec le niveau actuel de financement des alliés qui ne sont pas américains et les partenaires tourne autour de 1 milliard. Si on ajoute le fonds d'affectation pour l'armée nationale afghane et si on ajoute le fonds d'affectation de l'Union européenne pour la police, les chiffres peuvent varier d'année en année, mais on parle d'un engagement d'un milliard. Donc voilà, plus ou moins. Comme je vous l'ai indiqué, ça peut varier d'année en année. Ces fonds et les formateurs vont être utilisés pour renforcer les forces afghanes avec de nouvelles aptitudes et dans différents domaines. Mais nous mettons tout particulièrement l'accent sur trois domaines. Les forces spéciales, ce sont des éléments très importants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les talibans en Afghanistan. Nous avons décidé de mettre l'accent sur l'armée de l'air. Il faut une nouvelle armée de l'air et nous voulons améliorer le contrôle et le commandement pour développer les écoles militaires et les académies. Merci beaucoup. Cette conférence de presse est finie. Et je vous remercie. Merci.